À voix nue, cette semaine, Alain Corneau, par Sophie Nolot.
Alain Corneau, première.
De Meung à Manhattan. Avec vous, Alain Corneau, il sera bien sûr question de cinéma. Et quel cinéma, depuis le Salaire de la peur, qui est peut-être ce premier film à suspense que vous ayez vu, jusqu'à ce Deuxième souffle, réadapté récemment, de José Giovanni. Donc il sera question de cinéma et de tout ce qu'ils font, les acteurs, les costumières, les décorateurs, les éclairagistes, les monteurs et tant d'autres aussi qu'on ne voit pas. Mais aussi de musique, j'espère, de jazz, de littérature, de sentiments, de peinture, de voyage aussi, et peut-être même un peu de corrida. Mais pour cette première rencontre, j'aimerais que nous commencions par le commencement, puisqu'il paraît qu'on tourne encore des films comme ça dans le temps même de la chronologie du début à la fin. Donc, vous nous parliez de votre enfance dans le Val-de-Loire. Vous êtes un Mac du Noir, c'est comme ça qu'on
dit ?
Oui,
Mac du Noir, ça veut dire donc originaire d'un petit village qui s'appelle Meung-sur-Loire, qu'on prononce nous Main, mais que quand les gens ne connaissent pas, on prononce Meung. C'était un petit village très rural, posé au bord de la Loire, entre Orléans et Beaugency, qui est plus connu. Un pont sur la Loire, une Loire que je continue à adorer, quelque chose qui m'a sans doute marqué à vie. On passait tous nos étés au bord de la Loire, sur ces grandes plages, à se baigner dans la Loire. Un père vétérinaire, ce qui n'est pas innocent, c'est-à-dire que mon père était vétérinaire de campagne. Donc j'ai eu une enfance petite bourgeoise par le statut social de mon père, qui était une sorte de petit notable de ce village, avec une vieille famille, comme ça, un peu enracinée dans l'endroit. Et en même temps, grâce au fait que je l'accompagnais, très très vite je l'ai accompagné dans ses visites quand je le pouvais. Donc vision assez concrète et précise, comment je peux dire ça, d'un monde paysan. Aujourd'hui totalement disparu. Donc j'ai la conscience d'avoir vécu vraiment la transformation d'un monde. Voilà.
Et un monde très réel aussi. Vous racontez dans vos mémoires projections privées qui paraissent chez Robert Laffont, combien ça vous a fasciné ce père qui partait le soir pour sauver des bêtes, pour faire des mises bas, pour voir des chevaux éventrés. Enfin, il y a tout d'un coup un rapport à la vraie vie
ça,
et au sang.
C'est le moins qu'on puisse
dire. D'emblée,
ça m'a sans doute marqué. Mon père était vétérinaire traditionnel de gros animaux, des animaux dits utiles aux paysans, donc des animaux d'élevage, soit des vaches laitières, soit des chevaux. Enfin, il y avait encore la traction à chevaux. Il y avait les charrues, il y avait les maréchals ferrants, il y avait tout ça. J'ai connu tout ça, moi. Les voitures à chevaux dans les rues de Main-sur-Loire et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y avait d'abord un contact très, très brutal avec ce qu'est les odeurs de ce monde-là. C'est-à-dire pénétrer dans une ferme à l'époque, c'était pénétrer vraiment. Il y avait systématiquement le fumier au milieu de la cour, les poules partout, etc. Il y avait la porcherie avec les cochons, donc quelque chose de très très fort. Et c'est vrai qu'une grande partie du travail de mon père, il arrivait, et je me souviens très bien de le voir, même par moins 10, des fois l'hiver, se dénuder, se mettre torse nu, se passer de l'huile sur les bras, pour attaquer des opérations assez rudes, qui se traduisaient par un effort physique et par quelque chose de très puissant. Ce qui était satisfaisant quand même, il n'arrivait pas à guérir tout le monde, bien sûr, mais ce qui était satisfaisant, c'est qu'il obtenait des résultats. Voilà. Moi, j'ai connu un monde à la Marcel Aimé.
Vous êtes né en 43.
En 43, oui. Donc, je n'ai aucun souvenir de la guerre. J'ai commencé à avoir des souvenirs juste de l'après-guerre, de sortie de guerre. Voilà, un peu des souvenirs un peu confus, mais c'est cela que j'ai. Et c'est vrai que c'était un monde très, très rude, très, 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 très rude. Et en même temps, une espèce de grande chaleur. C'est vrai qu'il y avait un climat d'abord de confiance vis-à-vis de ce monde-là, vis-à-vis de mon père, ce qui est pas rien. Je veux dire, mon père adorait ce métier, donc ça aussi, ça m'a marqué.
Vous dites que vous avez hérité de lui son scepticisme actif.
Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'il y avait peu d'illusions sur l'humanité en général, mais en même temps, il avait une grande confiance dans les gens qu'il côtoyait. Mais en même temps, il avait le sentiment de pouvoir agir, de pouvoir agir.
Et votre maison à vous, Alain Corneau, est-ce que c'est vrai que Ingres y vivait à l'époque ou dans les années 1850-60, il était à Meung-sur-Loire?
Pas dans la mienne, mais dans la maison qui est celle du notaire, qui était celle du notaire après. C'était la maison d'Ingres, effectivement. C'est une très très belle maison qui est comme ça au bord du Mail, qui donne sur la Loire. Et ça fait partie du charme très ancien de la province. Il y avait une très belle église datant du XIe siècle. Il y avait un château comme ça aussi dans un parc dans lequel on allait jouer quand on était au patronage. Il y avait toute cette ambiance-là, oui. Mais Ingres était... Bon, il y avait alors les gens fameux, hein, il y avait le roman de la Rose.
Jean de Meung.
Voilà, de Jean de Meung. Il y a effectivement Ingres. Il y avait aussi François Villon, qui soi-disant a été enfermé dans la tour du château. Il y a eu un passage de Jeanne d'Arc. Il y avait le pont détruit qu'on appelait le pont de Jeanne d'Arc, au moment du siège d'Orléans. Puis il y avait un poète paysan de Beauce qui s'appelait Gaston Coutet, hein, qui était un peu connu, et qui avait écrit la chanson du gars qui a mal tourné, ce qui est vraiment très époque, la guerre de 14. C'est à peu près les célébrités de Main-sur-Loire. Petit village vraiment très paisible, qui est sillonné de mauves, des petits ruisseaux. C'est pas déplaisant. Et ces petits ruisseaux avaient amené un certain nombre de moulins, des moulins donc avec des grandes roues qui utilisaient ces ruisseaux comme énergie. Et il y avait beaucoup de farine qui était faite là, quoi. Voilà. Et le symbole de main, c'était les ânes de main. C'est ces petits ânes qui transportent la farine et qui, dans la mythologie, avaient été censés ravitailler Orléans quand Orléans était sous le siège des Anglais.
Vous parliez, Alain Corneau, de votre père vétérinaire et de la rudesse du quotidien. Mais parallèlement à ça, vous avez aussi une belle expression. Vous dites que vous alliez aux jonquilles quand d'autres vont bêtement aux champignons.
Oui, bah c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance d'abord d'habiter au bord de la Loire. J'avais des amis qui habitaient dans des petits villages de Beauce, complètement isolés au milieu des champs. Je me demandais comment ils vivaient là. Pour moi c'était terrorisant, je veux dire, de ne pas avoir au moins ce fleuve qui passait. Et c'est vrai qu'on allait aux jonquilles, on allait aux grenouilles, on allait, voilà. J'ai eu une enfance vraiment campagnarde de ce côté-là. Ouais, ouais. De ce côté-là, c'était. Et j'ai eu cette chance-là, effectivement, de me promener en Sologne, par exemple, qui est un endroit qui m'a toujours ébloui. Qui a dû aussi me marquer parce que la Sologne, c'est un endroit dit sauvage et qui est entièrement fabriqué. Toute la Sologne a été fabriquée, je crois, au partir du 16e, 17e siècle. Les étangs sont tous fabriqués, faux. Donc, cette espèce de nature à hauteur d'œil, à hauteur d'homme, qui a un charme infini, hein, qui a, dans toute saison, je me souviens y avoir fait des très très longues balades. Oui, oui, des très très longues balades. Hein, oui.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau dans vos films aussi. Il y a de l'eau dans votre nom même, Alain Corneau,
ouais,
mais
ouais.
Également dans les films. Il y a le lac de Polispiton 357.
Ouais. Il y a la Loire aussi.
De même dans le choix des armes, l'eau est très présente. Bien sûr, il y a l'étang de Monsieur de Sainte-Colombe. Dans le Prince du Pacifique, il y a l'océan. Dans les mots bleus, il y a la mer. Enfin, il y a de l'eau partout, à part peut-être dans Forsagan.
Forsagan, il y a le désert. Est-ce que c'est pas l'équivalent? L'eau, je sais pas. Alors là, je suis incapable de réfléchir s'il y a une métaphore quelconque derrière ça. C'est pas impossible. Je pense que d'être accoudé à une rivière ou à la mer est quelque chose qui donne une sorte d'équilibre. Ça, c'est vrai. La deuxième chose, c'est vrai que j'aime bien ces choses qui vont loin comme ça, dans un calme apparent, mais qui peuvent être en même temps furieux. Mes deux paysages préférés, c'est vrai que c'est la mer et le désert. C'est vrai. C'est vrai que je suis pas très à l'aise dans la montagne, quoi, par exemple. Voilà. C'est quelque chose qui me perturbe un peu. J'ai l'impression que le paysage a de l'imagination pour moi. J'ai l'impression que l'homme est ainsi fait, enfin en tout cas je parle pour moi, que quand on est en montagne, on se met devant un précipice et on se prend pour une espèce de dieu, ce qui moi me
plaît pas beaucoup. Il peut y avoir beaucoup. Une altitude qui soit pas forcément hautaine.
Ah non, mais bien sûr, non, et puis il y a aussi l'envie de gravir les montagnes et tout, je suis pas fou, je sais que c'est une conception extraordinairement personnelle, mais ce sont des choses qui inconsciemment jouent au moment où, par exemple, on écrit ou on travaille. On est, comme on dit aujourd'hui, travaillé par ça sans qu'on le sache.
Il faut dire que Meung-sur-Loire, l'altitude n'est pas bien haute. Hein.
Non, je crois que c'est même au niveau de la mer, j'ai l'impression. Oui. Ah oui, non, et autour, c'est un pays où on peut faire de la bicyclette sans problème. Oui. Il y a très peu de montées, à part de monter le pont et de redescendre après. Il y a que le vent qui arrive de face, c'est tout. Quoi.
On a du mal à croire, Alain Corneau, que le réalisateur de séries noires ait été un jeune homme asthmatique et complètement chamboulé par la tristesse de Bambi. C'est vrai, cette histoire-là?
Oui, c'est vrai. Mais ça, je ne suis pas très original là-dessus. J'ai eu une petite enfance eczémateuse, comme on dit, mais assez forte. Hein. On n'osait pas trop montrer, même tout bébé. Ça va avec l'asthme. J'ai eu beaucoup, beaucoup de crises d'asthme, effectivement. Ça m'a un peu handicapé, mais pas trop. Mon père m'a soigné. Ça m'a empêché de vivre une vie collective, genre scout, genre tout ça, parce que bon, dès que j'étais dans un endroit avec des plumes, des machins, des duvets, ça y est, c'était parti. Donc ça m'a protégé de ce type d'expérience.
Oui, c'était une chance finalement.
Oui, c'est ça. Ça m'a protégé du service militaire aussi, d'ailleurs. On a réussi à se débrouiller pour que, à l'époque, tout le monde se battait pour être réformé. Hein, c'était le sport national. Ça a réussi. J'étais déjà en train de travailler. Et puis ça m'est passé.
Il y avait aussi dans votre enfance une map monde lumineuse.
Mmh, ah oui. Alors ça, de nouveau, je suis pas original là-dessus, mais c'est vrai que le rêve de voyage m'a chopé assez tôt. C'est vrai que j'ai rêvé, alors comme beaucoup de monde, sur des maps mondes, cette fameuse map monde que j'ai fini par prendre pour moi-même, qui était allumée avec une pauvre prise électrique, je me souviens, et une ampoule dedans, et que je tournais, cette map monde sans arrêt, en travaillant, en rêvant et tout ça. Plus après la grande planisphère, là, qui est un des plus beaux tableaux qu'on peut voir au monde, à mon avis. Hein. Je veux dire, quand on a les deux globes là, à plat, les uns à côté des autres, on voit tous les pays du monde. C'est quelque chose qui m'a effectivement beaucoup marqué. J'ai eu la chance aussi, avec un père qui m'a beaucoup formé, qui lui aussi adorait aller loin et à la rencontre de gens différents. Donc j'ai eu ce virus très très tôt, effectivement. Et je continue à l'avoir.
Alors l'évasion bien réelle, c'était d'abord les vacances au bord de la Loire, oui, avec un transistor qui donnait du rock.
Oui,
et
oui,
après, un peu plus loin, c'était l'Espagne, plus au sud, c'est ça ?
Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu d'abord, effectivement, c'est ma génération, qui est une génération, comment je peux dire ça, musicalement, qui a été quand même, je pense qu'on peut être assez fiers, notre génération, mais je ne parle pas de moi, je parle collectivement, d'avoir été très proche de l'événement musical qui était en train de se produire. Alors, on a subi bien sûr les réactions antagonistes contre les musiques de nos pères, hein, ça c'est sûr. Et en même temps, on a été sous influence immédiate de ce qu'on appelle aujourd'hui, et justement d'ailleurs, la culture de masse. C'est en fait les musiques américaines, dans son général, moi c'était principalement le jazz, donc la musique afro-américaine. Ça a été effectivement très formateur, très important, quasi obsessionnel. En plus, moi j'ai bénéficié, entre guillemets, hein, Orléans, qui était pas loin, c'est là où j'ai fait toutes mes études au lycée, a été une des villes où il y a eu le plus de bases américaines de l'OTAN, à partir des années 50-51, je crois, quand au moment où l'OTAN s'est déployée en Europe avec des bases très puissantes, parce qu'il y avait la guerre froide, parce qu'on pensait que Staline allait attaquer l'Europe, enfin bon, vous savez, toute cette histoire-là. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu, alors, assez jeune, je devais avoir 8, 9, 10 ans quand ça a commencé, l'arrivée de ces Martiens. Imaginez-vous un monde d'avant les années 60, c'est-à-dire un monde qui date encore d'avant-guerre, avec des curés en soutane, des dames en noir, des voitures à chevaux dans les rues, etc. Un non-dit sur ce qui s'était passé pendant la guerre, dont on n'avait pas conscience, mais qui devait jouer en une sorte d'asphyxie, personne ne parlait de l'occupation, collaboration, tout ça. Il a fallu des années avant que les langues commencent à marcher et que je commence à m'y intéresser vraiment. Et l'arrivée de ces gens, de ces Américains, avec ces grosses Cadillacs, ces Buicks, ces Chevrolet, des enfants en t-shirt déchiré, la musique partout, etc., les femmes en bigoudi habillées en rose. Imaginez-vous, Orléans, 70 000 habitants, 12 000 GI. Et ça a été alors foudroyant. Il y avait US Go Home partout, hein, le Parti communiste faisait plus de 20%, hein, attention, mais en même temps une fascination absolument prodigieuse. Donc ça a été une très très grosse influence. Puisqu'après, moi, plusieurs années après, j'ai commencé à faire de la musique personnellement, à rentrer donc dans une sorte de petit groupe constitué, et on jouait dans les casernes pour de l'argent pratiquement tous les soirs. Et tout. Donc c'était pour un adolescent de l'époque extraordinairement formateur d'une certaine manière. Formateur, voilà. Et après, ou en même temps, effectivement, mon père, qui a toujours été fasciné par l'Espagne, bon, ça le regarde, dès que les frontières ont été ouvertes, etc., puisqu'il y avait eu quand même encore là les séquelles de la guerre et du franquisme et tout ça, on a été très très vite effectivement se promener en Espagne où il y avait très peu de touristes. Donc j'ai vu une Espagne très rurale là aussi, où les routes étaient faites de poussière, où on arrivait dans les villages où 15-20 enfants vous couraient derrière parce qu'ils n'avaient pas vu d'étrangers depuis très longtemps, hein, aussi simple que ça. Et une impression comme ça, très très forte d'ailleurs, de dépaysement. Bon, il y a eu le Maroc aussi, il y a eu tout ça, enfin voilà. Donc j'ai été, dans le bon sens, bien bousculé pendant cette adolescence. Mais en même temps, c'était une adolescence protégée, hein, petite bourgeoise, où j'ai souffert de rien, d'une manière dure. Je veux dire, mon père m'a protégé là-dessus, lui avait été en pension, donc il voulait pas que j'y aille, enfin voilà, des choses comme ça. Voilà, après il y avait les tiraillements entre religion, pas religion. Ma mère était croyante.
Vous étiez enfant de cœur.
Voilà, elle voulait juste enfant de cœur. Mon père était incroyant, disait, bon bah si elle lui fait plaisir, on y va. Donc je me retrouvais à l'école communale avec des instituteurs communistes, qui, alors le curé venait me chercher pour les enterrements, enfin bon, mais c'était pas...
Oui, il paraît qu'en classe ça disait, monsieur, oui, Corneau est attendu,
voilà,
par monsieur le curé.
Ça, c'est ça, mais c'était pas... C'était un peu le petit monde de Don Camillo, ça n'allait pas plus loin que ça. Hein. C'était dans la tradition des villages et des... Tout ça était quand même relativement bon enfant. Je veux dire, j'ai pas eu le souvenir de violence. Et qu'après, où j'ai compris que pendant la guerre, c'était pas la même paire de manches. Alors ça, par contre, c'est vrai que c'est un trouble toujours. Étant né en 43, en plein milieu de cette période plus que trouble, pour dire les choses rapidement, hein, j'ai forcément une espèce de question d'identité, c'est vrai. Je me dis, tiens, comment ai-je pu naître en 43 dans un village avec des Allemands, tout ça. Enfin, bon, voilà. Mais cette question-là, je n'aurai jamais la réponse, évidemment.
Mais la foi vous a porté, jeune
enfant.
Oui,
en partie. Oui, j'ai eu. Ah oui, bah j'ai eu. Bah, étant un peu idéaliste, comme un bon préadolescent qui se respecte, c'est vrai qu'à un moment, j'étais très content d'être à l'église. J'ai monté très vite les grades d'enfant de chœur, turiféraire, grand cérémoniaire, la claquette. C'est moi qui dirigeais la mise en scène.
Déjà alors.
Oui, il y avait une sorte de. Et puis à l'époque, il y avait encore les surplis rouges, il y avait tout ça, il y avait le décorum, le latin, le curé de dos, le mystère de ce qui se passait sur l'autel. Tout ça en même temps avec une espèce de truc. Vous savez, il y avait les fameux livres signes de piste là, qui était un truc pour la jeunesse, qui était d'obédience un peu bizarroïde, avec des histoires de chevalerie, des histoires de prince Éric, des machins qui n'étaient pas très clairs idéologiquement, hein, je dirais, mais enfin, qui participaient à cette espèce d'exaltation. Alors c'est vrai que ça m'a pris, j'étais assez jeune. Hein. Et puis un jour, les curés se sont débrouillés pour que je perde tout. C'était, je crois, pendant une retraite de confirmation ou d'après-communion, je ne sais pas. Où d'un seul coup, on m'a demandé de mettre dans un calice, je me souviens très bien, un petit bout de papier dans lequel je m'engagerais à la vie, pour la vie, pour être soit un chrétien fidèle, soit un honnête homme, ou un témoin du Christ. Enfin, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me demande là? Et là, j'ai eu un vieux doute. Je me suis dit, mais j'ai aucun engagement à faire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai eu un sentiment d'embrigadement. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, mettons que cette espérance, parce que ça peut en être une, m'a commencé à vaciller. Voilà. Et je me suis retrouvé dans mon siècle des Lumières à moi, quoi. Voilà. Mmh. À douter et à commencer à me poser des questions. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien.
Et du calice à la corrida, Alain Corneau, pour revenir un peu plus au sud vers l'Espagne. Comment mettre des mots sur ce pur plaisir physique à voir débouler.
J'ose à peine parler de ça parce que c'est tellement. En plus, c'est devenu tellement polémique.
Non, mais c'est important, vous découvrez
ça
enfant.
Ah oui, c'est important. Je découvre ça enfant, donc ça vient fort. Alors, mon père aime ça. Il m'y emmène très tôt. Et là, il se produit effectivement une espèce de choc. Le rapport à l'animal, j'avais déjà été bien apprivoisé, ne serait-ce que par le rapport de mon père à l'animal. C'est forcément le taureau est un animal magique vers lequel toutes nos pulsions vont, hein, je veux dire. Et après, il y a effectivement ce combat ou je sais pas quoi ou ce balai, peu importe les mots qu'on emploie. Moi, je crois plutôt au combat qu'au balai. Et puis, j'ai très jeune été accroché par les grands maestros de l'époque, que ce soit Ordóñez, Camino, qui étaient des gens sublimes, hein, et qui aujourd'hui restent dans la mémoire des aficionados. Ça m'a pas vraiment quitté. Par période, j'y suis moins allé, etc. Mais ça m'a toujours accompagné. Je sais pas quoi dire. Cette liturgie me fascine. D'abord pour une raison simple, je pense que ça devrait plus exister. Donc, c'est curieux que ça existe encore dans notre siècle, dans 2007, hein, je veux dire. Donc il y a quelque chose là qui est un peu perturbant et tant mieux. Il y a le fait que c'est, je sais plus qui disait, je crois que c'est Jean Co, je sais plus qui disait être aficionado, c'est croire au Père Noël tous les jours à 5h. C'est vrai que c'est souvent pas terrible. Ça peut être un désastre. Le triomphe peut être extraordinaire, immédiat. Le fracasso, comme on dit, l'échec peut être immense dans la seconde d'après aussi.
C'est comme un film finalement.
Ça ressemble un peu, oui, c'est un spectacle, sauf que là. Alors il y a des règles qui sont posées, qui sont une vraie discipline. Alors ça c'est fascinant. Il y a des vraies règles très strictes. Ne serait-ce que le fait que ça commence à pile à l'heure. J'ai jamais vu une corrida passer une minute. Vraiment déjà, c'est un symbole d'autre chose. Et en même temps, tout est lié à un animal qui lui ne connaît pas les règles du jeu, qui a forcément raison. Qu'il soit courageux, pas courageux, c'est des choses braves ou pas braves. On met ça sur le dos du taureau, mais le taureau fait ce qu'il veut. Et tout ça aboutit à des moments très fugitifs, qu'on peut résumer par le mot espagnol, le temple, c'est-à-dire ce moment où, même pas en fraction de seconde, 2 secondes, 3 secondes, il y a quelque chose qui se produit comme un ralentissement, comme une éternité, où on a un éblouissement, on a une émotion, je veux dire, c'est très irrationnel et qu'on ne peut pas analyser, qu'on continue à ne pas comprendre, un peu comme dans le swing dans le jazz. Ce balancement, est-ce qu'on est en avant du temps, est-ce qu'on est en arrière du temps, on ne le sait toujours pas. Hein, cette espèce de drogue indéfinissable, et je pense que la tauromachie a cette caractéristique-là. Sans compter que c'est. Ils enfoncent une porte ouverte, c'est un spectacle tragique, les hommes risquent leur vie. Je veux dire, Rosé Thomas dit, quand je vais aux arènes, je laisse mon corps à l'hôtel, enfin, un tas de choses comme ça. Alors on peut détester ça, je comprends très bien, hein. Mais j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus, si ce n'est que à chaque fois on attend quelque chose qui va se produire là.
C'est votre père qui vous fait découvrir la corrida,
oui.
C'est lui aussi qui vous initie au jazz.
Bien sûr, oui, oui.
Neuf en fait.
Oui. D'une manière un peu contradictoire, parce que mon père était donc amateur de jazz avant la guerre, quand il était étudiant à l'école vétérinaire de Maison Alfort entre les deux guerres. Et il a vu les grands premiers concerts de Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie. Il était attaché à ça. Ce en quoi il était très original. Ce petit notable de province qui normalement devrait être dans un moule, a fait un mariage d'amour totalement irrespectueux des convenances et contre la vie de la famille en entier. Ma mère était quelqu'un d'extraction extrêmement modeste. Ça a été un vrai mariage d'amour, un coup de foudre. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, il écoutait du jazz. Alors là, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Troisièmement, il aimait le cinéma policier, ce qui fait beaucoup d'originalité. Et c'est vrai que ça a été très formateur pour moi. Voilà. Alors le jazz, par contre, j'ai eu très vite, alors en adolescence, une rébellion contre les parents, mais ça, je pense que chaque génération se débrouille pour trouver une musique que les parents ne peuvent pas écouter. Or, nous, il y avait ce qu'on appelait à l'époque, et on continue à appeler ça un peu comme ça aujourd'hui, le jazz moderne. C'est à la révolution du bebop, c'est à la cassure qu'a introduit dans le jazz Charlie Parker, Miles Davis, Bud Powell, etc. Alors, j'ai eu un moment de résistance, je me souviens au lycée, je continuais à écouter de la musique d'avant. Il y avait une chapelle comme ça qui était organisée par un grand prêtre à Montauban qui s'appelait Hugues Panassier, ça c'est bien vieux. Puis de l'autre côté, il y avait toute la jeune garde de Jazzot avec Boris Vian, Delaunay, etc., qui combattait cet esprit réactionnaire, parce que c'est bien ce qu'il faut dire. Et j'ai mis 2-3 ans à être influencé par mes camarades de lycée, et un jour j'ai découvert effectivement que c'était la même musique. Et ça a été un choc dont je me souviens encore aujourd'hui. J'ai écouté c'était à l'occasion d'un disque de Miles Davis, qui s'appelait Milestone, et je me suis dit, mais non, ça swing, c'est formidable, c'est effectivement ma musique, c'est la mienne.
Et comme Monsieur de Sainte-Colombe, alors, dans sa cabane en bois de mûrier, qui travaillait sa viole de gambe, ouais, vous étiez au grenier à apprendre la batterie.
Oui, alors c'est ça.
En autodidacte.
Assez vite, oui, tout seul. J'ai commencé à faire ce que je pouvais sur les percussions, à emprunter les caisses.
C'était aller contre ça aussi, faire de la batterie?
Pas forcément. Non, mon père était là-dessus très très libéral. Non, c'était pas aller contre. J'avais l'impression de m'engager dans un chemin assez personnel quand même. Oui. Imaginez-vous ce petit village, le grenier là-haut, moi mettant les disques de Miles Davis, de Sonny Rollins, etc., pour jouer dessus. C'était quand même très particulier. En plus, tout ça était lié à la présence américaine dont je vous ai parlé. Alors par contre, oui, de partir avec ma batterie que j'avais achetée peu à peu, etc., avec de l'argent de poche, de partir, quand ils venaient me chercher en voiture pour aller jouer dans des casernes américaines, alors là, évidemment, c'est très spécial. Plus après la caserne, on allait dans un club près d'Orléans qui s'appelait La Pizza, pour faire des jam sessions à partir de minuit, 1h du matin, là, c'était vraiment très spécial. Oui, non, là, je peux pas dire que j'étais monsieur tout le monde, c'était un peu différent, moi. Et en plus, on avait quelques dollars dans la poche.
Ah. Vous écoutez Alain Corneau, je pense à Richard Anconina dans Le choix des armes. Il y a une scène très belle où ils sont dans leur HLM et il est avec des baguettes sur la nappe à carreaux. Et Depardieu lui dit si tu veux, t'en auras une.
Il dit même avec des cymbales en or. Oui. Ah, bah oui, mais ça, c'est mon obsession. Oui, absolument. Oui. Ça, c'est la grande qualité à mes yeux du cinéma de genre. Derrière la représentation codée du cinéma noir, par exemple, puisque c'est un de mes cinémas de prédilection en tant que genre, on peut y mettre librement tellement de choses personnelles, tout en restant caché, que c'est un véritable délice.
Et pour un batteur de jazz comme vous, Foot Coltrane, faire une hippocagne, c'est assez original, non?
Tout ça, c'est un mélange assez détonnant quand même. Voilà. On était quand même assez fou de musique et de cinéma. Et ça se ressemblait dans notre tête. On allait d'un concert à une projection. Je veux dire, c'était notre vie quotidienne. Coltrane a été important parce qu'il nous a ouvert aux musiques extra-européennes, principalement aux musiques de l'Inde. Ça a été une découverte foudroyante. Je me souviens, on a été parmi les premiers, je parle de ma génération, à voir Ravi Shankar à Gavot. Il y avait très peu de monde. Bon, maintenant, Dieu merci, n'importe quel maître, même inconnu en France, au Théâtre de la Ville, bourre la salle, ce qui est quand même... Je veux dire, je suis très heureux, moi, à chaque fois que j'y vais, de voir plein de gens qui connaissent bien, même mieux que moi maintenant, et qui suivent ça. Bon, ça, c'est important. En même temps, alors, au début, je ne l'avais pas su, il y a eu le renouveau de la musique baroque. Tout ça est lié. Ça a commencé, bien sûr, en Hollande, avec Gustav Leonhardt, Arnoncourt, en Autriche, etc. Ça ressemblait un peu au jazz, tout ça, très curieusement. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord le soliste, le son, la pulsation rythmique, le fait que... Alors, on était un peu ayatollah sur le refus de toute la tradition romantique, lourde... le vibrato, les grands orchestres symphoniques un peu lourds, Karajan, tout ça. On avait tort, bien sûr, mais c'était un peu militant. Et en même temps, on était consommateurs de musical, de Boulez. De Kagel, de Stockhausen, de Boulez lui-même, d'Exilakis. Bon, et voilà, ça a été une sorte de maelstrom très, très... Ça a été puissant, ça a été quelque chose de très, très important. Alors après, bon, ça s'est décanté.
Et c'est le jazz qui l'emporte, parce qu'à l'IDEC, votre mémoire porte sur le jazz et le cinéma, et c'est pour le jazz que vous partez
bien
à New York.
Bien sûr, mais ça, le jazz était quand même la colonne vertébrale pour moi. Ça me paraissait marrant quand même de comparer l'histoire du jazz avec le cinéma, parce qu'il y avait, dans mes yeux de post-adolescent cette fois-ci, il y avait quand même des rapports. Le fait que c'est né à peu près au moment, que l'un et l'autre ont besoin de la technique, le jazz, il faut qu'il soit enregistré, sinon on ne le connaît pas, le cinéma, il s'enregistre. Le fait que les rythmes sont un peu identiques l'un et l'autre. Enfin bon. Par contre, ce qui m'avait toujours surpris, mais ça c'est pour des raisons politiques, sociales, et les questions de racisme aux États-Unis et de difficultés à appréhender une musique qui est en même temps métisse et en même temps pure. C'est-à-dire que la grande surprise, c'est de voir que le cinéma américain et le jazz a eu très peu de mariages. Très, très peu de mariages. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques grandes bandes-sons, Duke Ellington, Mingus, pas beaucoup. Et principalement, quand vous regardez la comédie musicale américaine, qui était un moment éblouissant, attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un noir à l'écran. Il n'y a pas, un seul musicien noir. On entend de la musique noire, on entend les tap-dances qui a été inventée par les noirs dans la rue, mais on n'en voit pas un que là. Hein, je veux dire. Donc c'est cette espèce de trouble qui m'a beaucoup accompagné et qui, de nouveau aussi, a dû être formateur. De dire, mais qu'est-ce qui se passe?
Et c'est pour les rencontrer vraiment que vous êtes allé
oui.
à Manhattan?
Oui, alors il se passait des choses. À la sortie de l'IDEC, il se passait d'abord une lutte de plus en plus dure pour les droits civiques aux États-Unis qui nous passionnait. Les Panthères sont arrivés là, même si ça a été un mouvement très minoritaire, c'était quelque chose qui nous fascinait, les Fred Hampton et tous ces gens-là. Il y avait Malcolm X, qui nous paraissait, alors l'engagement politique était là aussi, hein, qui nous paraissait un personnage extraordinairement neuf, nouveau, etc. Il y avait les Black Muslims, enfin il y avait beaucoup de choses. Et il y avait dans le jazz, alors, quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir par la suite. C'est-à-dire que, en très peu de temps, le jazz a vécu ce qu'a vécu la musique occidentale en plusieurs siècles. C'est la période d'origine, les primitifs, après l'équilibre, après le baroque, après le rococo et après l'avant-garde. Et il s'est passé ça dans le jazz en même pas 100 ans. Alors ça nous a fascinés. On s'est dit, alors là, il se passe quelque chose. On appelait ça la nouvelle chose. Politiquement, tout était lié. Donc quand je suis allé à New York, c'était pour voir ça. C'était pour voir cette chose-là. Et je l'ai vu de près, effectivement. Et c'était pas rien. Oui.
Merci Alain Corneau.
Merci.
Nous parlerons demain de vos débuts en tant qu'assistant réalisateur sur environ une bonne dizaine de films qui vont de Costa Gavras à José Giovanni, entre autres, mais aussi du premier film que vous n'avez pas fait, 1275 âmes, et enfin du vrai premier film que vous avez réalisé et qui s'appelait France Société Anonyme avec Michel Bouquet et Roland Dubillard, entre autres. À demain.
À demain.
C'était Alain Corneau, à voix nue, avec Sophie Nolo. Prise de son Marcel Lebras, réalisation Laurent Polleret. Vous pouvez réécouter cet entretien et même le télécharger sur le site internet de France Culture, www.franceculture.com.